Quand j'étais encore à l'école primaire, on appelait ceux du secondaire les grands, parce qu'ils pouvaient faire des choses que nous, les petits, ne pouvions pas. Mais cette façon de voir toute relative n'a guère de substance, car elle dépend de la perspective qu'on adopte. Il en est de même dans bien des domaines et aussi pour certains textes bibliques. En effet, Osée est le premier de 12 livres prophétiques qu'on appelle « petits ». Par rapport aux grands, qui sont Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel, cette différence d'appellation est due à la dimension du livre et non pas à son contenu. Cependant, même cette différenciation n'est pas rigoureuse étant donné que la prophétie d'Osée est plus longue que celle de Daniel et que ce dernier ne fait pas partie des prophètes, mais de ce que les Juifs nomment les écrits de l'Ancien Testament, ce qui est un peu étrange. Nous ne possédons pas de renseignements sur la façon dont le recueil des petits prophètes s'est formé, mais les rabbins ont toujours considéré ces 12 livres comme un seul et unique ouvrage. Assez curieusement, ils ont divisé les prophètes en 4, qui sont Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et les 12 petits. L'historien juif Joseph adopte la même position que les rabbins. Chaque prophète construit ses écrits sur ceux de ses prédécesseurs, ce qui laisse supposer que les livres prophétiques sont rassemblés en un seul recueil à mesure que leur édition est terminée. Beaucoup d'auteurs de livres de l'Ancien Testament sont issus des écoles de prophètes qui existent déjà du temps du prophète Élie et Élisée. D'après la tradition, et le second livre des Maccabées, qui est un texte apocryphe, c'est Néhémie qui a réalisé l'édition finale et la collection des livres prophétiques. Dans les versions françaises, l'ordre des petits prophètes est le même que dans le texte hébreu, mais il est légèrement différent dans l'ancienne traduction grecque, la Septante, Osée, Amos, Michée, Joël. L'ordre en français est à peu près chronologique. Il y a premièrement les 7 petits prophètes, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, qui ont précédé l'époque où les Babyloniens montent en puissance et interviennent dans les affaires des nations palestiniennes, dont les 2 royaumes israélites. Ensuite viennent les 2 prophètes qui exercèrent pendant l'apogée de la puissance chaldéenne, Habacuc et Sophonie. Et enfin, les 3 derniers qui correspondent à l'époque de la puissance perse, Agée, Zacharie et Malachie. Osée est placé en tête du recueil des petits prophètes à cause de l'importance de son livre, mais chronologiquement, il devrait être en 4e position. Les petits prophètes ne sont pas des amateurs ni même des professionnels de seconde division. Chacun d'eux a un message percutant à un moment de crise en Israël ou en Juda. Tous les prophètes, petits et grands, s'opposent aux alliances politiques de leur pays avec les nations païennes. Et ils sont fortement nationalistes, bien que la plupart d'entre eux annoncent aussi qu'un jour, Dieu établira une nouvelle alliance et le salut s'étendra alors aux non-juifs. À leur sortie d'Égypte, les Hébreux forment un seul peuple. Mais à l'époque d'Osée, ils constituent depuis déjà longtemps 2 royaumes. Celui du nord s'appelle Israël, au royaume des 10 tribus, ou encore pays de Samarie, du nom de sa capitale. Le royaume du sud est Juda, allié à Benjamin. Osée débute son ministère sous le règne de Jéroboam II, qui est le 4e des 5 rois de la dynastie d'un certain Jéhu, lui-même étant le 10e roi du royaume d'Israël. C'est pendant une période d'apostasie religieuse et sur l'ordre de l'Éternel que Jéhu est sacré roi. Il tue Joram, roi impie d'Israël, Ahazia, sixième roi de Juda, qui régna moins d'un an. Ainsi que la famille de l'infâme roi Akab et les prêtres de Baal. Mais Jéhu a désobéi à Dieu en ne mettant pas fin au culte des veaux d'or que Jéroboam Ier a établi dès le début de la création du royaume des 10 tribus du Nord. Curieusement, ces veaux, pourtant inspirés des pratiques idolâtres de l'Égypte, sont censés représenter l'Éternel. Le but de ces sanctuaires illicites est de concurrencer le culte agréé par Dieu à Jérusalem afin de maintenir le schisme avec le royaume du Sud et d'empêcher ainsi les Israélites du Nord de retourner en Juda. En effet, Jéroboam Ier craint que, si le peuple se rend à date fixe à Jérusalem pour y adorer l'Éternel, il risque de réintégrer la dynastie de David. Pour cette raison, il crée 22 nouveaux sanctuaires, les deux principaux étant situés aux deux confins de son royaume, à Bethel au sud et à Dan, la ville la plus au nord du territoire d'Israël. À l'encontre du commandement qui interdit d'adorer Dieu en se servant de simulacres, Jéroboam Ier érige un veau d'or en chacune de ces deux localités. Et pour encourager le peuple à adorer ses veaux, Jéroboam emploie la formule « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte », formule que Aaron, premier grand prêtre et frère de Moïse, ainsi que le peuple hébreu, ont utilisé en s'adressant au veau d'or fabriqué dans le désert. Jéroboam Ier veut que son peuple adore l'Éternel sous la caricature du veau. Il crée également des sanctuaires sur les hauteurs et constitue un sacerdoce d'Israélites n'appartenant pas à la tribu de Lévi, parce que les prêtres légitimes de la lignée d'Aaron refusent de servir le culte idolâtre et schismatique du roi Jéroboam Ier. En outre, ce roi décrète que la fête des récoltes, ou fête des tabernacles, célébrée en Juda le 15e jour du 7e mois, se ferait le 15e jour du 8e mois dans le royaume du Nord. Dans sa majorité, le peuple suit le roi dans cette idolâtrie qui est l'une des principales causes de la fin du royaume des 10 tribus. Uni, le peuple hébreu est puissant, mais le faux culte et sa scission en deux monarchies l'ont considérablement appauvri. En délaissant la haute spiritualité du culte de l'Éternel, le royaume du Nord tombe dans la déchéance religieuse et morale. Après Jéroboam Ier, aucun monarque du royaume du Nord n'a le courage de supprimer les sanctuaires idolâtres, car tous craignent que si le peuple retourne à Jérusalem, il risque de se rattacher à nouveau à la dynastie de David. Parce que Jéhu extermine totalement la dynastie d'Akab, l'Éternel lui promet qu'après lui, 4 générations occuperont le trône. Cependant, quand Jéhu n'a pas supprimé le culte des veaux d'or, Dieu le punit et Israël Nord est envahi par les Syriens, qui occupe le pays de Galaad, la région à l'est du fleuve Jourdain. Jéhoaz, fils de Jéhu, est encore plus humilié que son père parce que les Syriens arrivent jusqu'au centre de son pays. Il crie alors à l'Éternel qui lui promet un libérateur. C'est son fils, Joas, car il parvient à reculer les Syriens au-delà du Jourdain et même à vaincre le royaume de Juda contre qui il est en guerre. Après Joas, son fils Jéroboam II, qui monte sur le trône du royaume des 10 tribus, et c'est le plus illustre des rois d'Israël Nord, puisqu'il réussit à rétablir les frontières d'Israël telles qu'elles étaient sous Salomon. Les Syriens sont mis en déroute. Ils perdent tout le territoire de Galaad qu'ils avaient conquis à l'est du Jourdain et sont envahis à leur tour sous Jéroboam II. La frontière du pays de Samarie va de Damas au nord jusqu'à la mer Morte au sud. Le prophète Jonas a prédit ses victoires militaires. qui sont suivies d'une grande prospérité économique, mais avec malheureusement beaucoup d'excès de toutes sortes. Le culte de Baal est introduit dans le royaume du Nord d'abord discrètement, puis de façon outrageuse. Sous, à l'extérieur de faste, les dirigeants de la nation se corrompent toujours davantage. Quant aux Israélites, ils s'imaginent que ce sont les idoles qui leur ont acquis la prospérité, ce qui fait qu'ils utilisent les productions du pays pour leur rendre un culte toujours plus corrompu. Le prophète Amos, qui exerce son ministère sur le règne de Jéroboam II, mais avant Osée, tire un sombre portrait de l'état moral et religieux d'Israël à cette époque et annonce la venue du jugement divin. Mais malgré la fidélité de son peuple, l'Éternel patiente parce qu'il a promis qu'un quatrième rejeton descendant de Jéhu occupera encore le trône. C'est ainsi que Zacharie succède à son père Jéroboam II. Mais son règne ne dure que 6 mois. Et avec lui disparaît la dynastie de Jéhu qui s'est distinguée par l'énergie et la réussite militaire de ses rois. Zacharie est assassiné par un certain Shalum qui devient le 16e roi d'Israël Nord, mais il n'a qu'un mois pour chauffer le trône. En effet, après avoir appris que Zacharie est assassiné, Menahem, l'un des gouverneurs militaires, se rend en Samarie, la capitale du royaume, fait la peau à Shalum et tant qu'à faire, prend sa place. C'est un très mauvais roi qui commet des atrocités, pratique le culte des vaudeurs et devient tributaire de la Syrie. Il est succédé par son fils Pekaïa, qui règne 2 ans avant d'être assassiné par Péka, l'un des chefs de son armée qui prend sa place. On récapitule. Menahem assassine Shalum, qui a assassiné Zacharie, fils de Jéroboam II. À cette nouvelle, Péka établit au-delà du Jourdain un gouvernement parallèle à celui de Samarie, ce qui déstabilise Menahem. Afin d'asseoir son autorité sur l'ensemble des 10 tribus du Nord, Menahem fait appel à la Syrie et devint leur vassal. Pour compenser l'aide des Assyriens, Menahem doit leur verser un énorme tribut qui saigne à blanc le peuple. À un certain moment de son règne, Péka, qui est établi sur Galaad, jure fidélité à Menahem, qui lui donne un haut poste militaire parce qu'il a le soutien des Israélites installés de l'autre côté du Jourdain. Après la mort de Menahem, son fils Pekaïa lui succède. Mais cela ne convient pas à Péka, qui l'assassine et prend sa place pour devenir roi sur tout le royaume d'Israël Nord. Le texte du livre des rois dit qu'il régna 20 ans, ce qui inclut le temps de sa nomination sur Galaad, située de l'autre côté du Jourdain. Péka s'allie alors avec la Syrie afin de résister aux Assyriens. Ensemble, ils se mettent en campagne contre le royaume de Juda afin de l'obliger à entrer dans leur coalition. Mais Ahaz, roi de Juda, appelle à l'aide les Assyriens qui sont heureux d'intervenir. Péka doit alors rentrer chez lui où il meurt assassiné par un certain Osée qui n'est pas le prophète du même nom, mais qui est à la solde des Assyriens et qui devient roi à la place de Péka. C'est l'anarchie politique et morale totale et rappelle la bande dessinée dans laquelle le grand vizir, Iznogorod, veut devenir calife à la place du calife. En effet, en un peu plus de 20 ans, 4 des 6 derniers rois du royaume des 10 tribus du Nord ont été assassinés. À l'époque du roi Menahem, 2 partis se forment et se confrontent. L'un est pro-assyrien, mais l'autre redoute cet immense empire et cherche un appui auprès de l'Égypte. Le roi Osée, qui est d'abord tributaire des Assyriens, cherche à secouer ce joug en concluant une alliance avec l'Égypte. Croyant en leur soutien, il refuse de payer le tribut annuel aux Assyriens. Alors, le roi Shalmaneser V envahit le territoire d'Israël, emprisonne le roi Osée et assiège Samarie. La capitale du royaume est dans une grande détresse, mais résiste 3 ans, à la fin desquels Shalmaneser meurt. Sargon II lui succède et s'attribue la gloire de prendre Samarie, puis il déporte les notables et une partie du peuple. Cet arrière-plan long et compliqué permet de comprendre le ministère du prophète Osée qui s'étend à la fin du royaume de Jéroboam II, au début du règne en solo d'Ézéchias sur Juda. Après une période de régence commune avec son père Azaz, soit environ 40 ans, Osée commence à prophétiser à la fin d'une période de conquête militaire et de prospérité dans les deux royaumes israélites du nord et du sud. En effet, pendant la première moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ, l'influence assyrienne à l'ouest ayant considérablement diminué, ce déclin permet au royaume de Jéroboam II et d'Ozias sur Juda de prospérer. Ozias monte sur le trône à l'âge de 16 ans et redonne force et indépendance au royaume de Juda. Il réorganise l'armée, restaure les remparts de Jérusalem, il est victorieux sur les Arabes et les Philistins, détruit plusieurs villes de ces derniers, assujettit les Ammonites et d'autres peuples. Ozias développe l'agriculture, bâtit des tours dans le désert et creuse des puits. Il adore l'Éternel, mais laisse subsister les hauts lieux où son peuple offre des sacrifices aux idoles. Malheureusement, ses succès l'enorgueillissent et il tente d'usurper les fonctions sacerdotales. Jugé par l'Éternel, il est atteint d'une lèpre dont il ne guérit pas et mort. Après un règne de 52 ans, Ésaïe, Osée et Amos ont prophétisé pendant le règne d'Ozias. La prospérité du royaume des 10 tribus du Nord connaît une chute rapide annoncée par le prophète Osée. 9 ans avant la fin du règne de Jéroboam II, Tigal-Pélézer III monte sur le trône assyrien, remet à l'ordre du jour l'expansion de son empire vers l'ouest et réussit à faire de la Syrie une puissance redoutable. La politique d'Israël Nord, puis de Juda, oscille alors entre la soumission à la Syrie et la recherche de l'appui égyptien, question de politique étrangère, et suscite des complots contre les rois en place. La montée en puissance et en influence de la Syrie affaiblit l'Égypte qui essaye de se maintenir en favorisant des soulèvements dans les pays qui sont progressivement assujettis à l'Empire assyrien. Sous le roi Menahem, et comme je l'ai déjà dit, le royaume des 10 tribus du Nord devient tributaire des Assyriens avant d'être carrément envahi par ces derniers une dizaine d'années plus tard. Et même le royaume de Juda devient vassal des Assyriens. Revenons au prophète Osée. Son nom est un dérivé de Josué qui a donné Jésus et qui signifie « salut, délivrance ». Tout ce que nous connaissons de ce prophète provient de son livre, ce qui est fort peu de choses. Il est probablement de l'une des 10 tribus du Nord dont il mentionne certaines villes ici et là, et où il exerce tout son ministère prophétique. Son style est vif, énergique et concis. Il est laconique et sentencieux, au point où ce qu'il dit est parfois obscur. Cependant, même si les détails sont souvent difficiles à saisir, dans son ensemble, le message du livre d'Osée est très clair. Il se peut même que dans sa providence, Dieu ait voulu ce manque de clarté afin d'établir un contraste avec les certitudes révélées que seule la foi permet de découvrir. Osée mentionne Juda 14 fois, mais c'est essentiellement pour établir un parallèle avec le royaume d'Israël Nord. Cependant, sur les 14 citations, 10 sont défavorables. Par contre, Osée ne parle jamais de Jérusalem. Osée a succédé au prophète Amos, dont il reprend certains oracles, poursuivant ainsi le ministère de son prédécesseur. Osée est contemporain d'Ésaïe et de Michée, qui prophétisent dans le royaume de Juda. Et plus tard, Jérémie s'inspirera des prophéties d'Osée. Le titre complet du livre d'Osée est également le premier verset qui est « L'Éternel adressa la parole à Osée, fils de Béhéri, sous le règne d'Ozias, de Jotham, d'Ahaz et d'Ézéchias, roi de Juda, et sous le règne de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. » Les événements du règne de ces rois sont décrits dans le livre des rois et le second livre des chroniques. Cela dit, on est surpris par l'introduction de cette prophétie, car si Osée mentionne les noms de tous les souverains israélites qui sont ses contemporains, il commence par citer les quatre rois de Juda avant Jéroboam, roi d'Israël Nord, qu'il appelle pourtant notre roi dans sa prophétie. Osée a été témoin de la fin de la monarchie des 10 tribus du Nord, et pourtant, il passe sous silence tous les rois qui succèdent à Jéroboam II. Il les omet volontairement, parce que pour lui, les rois de Juda, successeurs de David, sont les seuls souverains légitimes. Il mentionne quand même Jéroboam II, parce que c'est un roi très important dans l'histoire du royaume des 10 tribus du Nord. En fait, il cite le roi de Juda pour une autre raison. En effet, quand Osée finit ses prophéties, le royaume du Nord a disparu tandis que Juda existe toujours. Les avertissements qu'il a donnés à Israël Nord peuvent donc être utiles au peuple de Juda. Quand l'Éternel ordonne à Osée de prophétiser en Israël Nord, le peuple est alors doublement coupable. Au niveau religieux, par l'idolâtrie rampante, et au niveau politique, par le schisme. D'autre part, les Israélites offrent un culte aux vaudeurs et à Baal. Et d'autre part, les 10 tribus se sont séparées des rois de Juda, les seuls légitimes, parce que de la lignée de David. Le contenu du livre d'Osée adresse ces deux fautes qui, aux yeux du prophète, sont à la racine de tous les autres péchés et la cause première de la ruine du royaume d'Israël Nord. Parce que Dieu ne sévit pas tout de suite, on croit pouvoir échapper à ses jugements. Mais c'est oublier que le temps travaille toujours pour lui.